Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, sommes-nous addicts aux addictions ? Le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, le sucre, le sexe, le porno, les réseaux sociaux, les jeux d'argent, les jeux vidéo. La liste est longue de ces produits ou de ces pratiques qui, consommées à haute dose, sont susceptibles de se transformer en addiction. L'Organisation mondiale de la santé a ainsi reconnu il y a une semaine l'existence d'un trouble du jeu vidéo, le game disorder. Mais qu'est-ce qu'une addiction ? Une enquête consacrée à ce phénomène chez les jeunes et qui vient tout juste d'être publiée en donne la définition suivante. Il s'agit d'une consommation ou d'un comportement que l'on ne parvient plus à contrôler malgré les dommages qu'ils peuvent entraîner. Les auteurs de l'enquête assurent que les consommations à risque ne cessent de s'accroître, qu'elles doivent être donc considérées comme un problème de santé et de sécurité publique de premier plan. Alors on peut néanmoins s'étonner de voir cohabiter sous la même appellation d'addiction la consommation de produits dangereux, voire mortels, l'alcool, le tabac, et des pratiques qui semblent davantage poser problème du fait de leur nature plutôt que de leur réelle dangerosité, le porno par exemple. N'y a-t-il pas face aux addictions une posture morale de la société ? Et celle-ci n'est-elle pas en pleine contradiction lorsqu'elle prétend combattre un phénomène qu'elle encourage par ailleurs à travers la surconsommation ? Alors sommes-nous addicts aux addictions ? C'est le sujet dont nous allons parler ce soir en compagnie de trois invités. Michel Reynaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et addictologue, président du Fonds Action Addiction. Vous avez co-dirigé l'enquête que j'évoquais, les addictions chez les jeunes, publiée avec la Fondapol et la Fondation Gabriel Perrier, donc le Fonds Action Addiction. Pour discuter avec vous, un invité en duplex des studios de France Bleu à Guéret, il s'agit de Patrick Farreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous avez publié, c'était au mois d'avril dernier au PUF, Le capitalisme addictif. Et puis, troisième invité, lui, est au téléphone à Marseille. Il s'agit de Roland Gory. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique à l'Université Aix-Marseille. Parmi vos ouvrages, je signalerai celui-ci, mais il y en a peut-être d'autres. Enfin, il y en a évidemment d'autres, mais celui qui me paraît peut-être en lien avec le sujet de ce soir, L'individu ingouvernable, au lien qui libère. Alors, j'espère que la communication entre vous trois va bien se passer, puisque chacun est dans un studio différent. Mais je voudrais évidemment qu'on commence peut-être par la définition des addictions, celle que j'évoquais en introduction, Michel Reynaud, que j'ai donc trouvé dans le rapport que vous avez co-dirigé. Addiction, consommation, comportement que l'on ne parvient plus à contrôler malgré les dommages qu'ils peuvent entraîner. Est-ce que c'est une définition qui fait autorité aujourd'hui dans le milieu médical ?
Globalement, c'est celle qui est admise sous une forme parfois un peu différente dans les termes, dans les classifications internationales. Chaque mot a une importance, c'est-à-dire c'est une consommation qu'on ne contrôle plus, dont on a besoin, qui vous envahit, on a perdu le contrôle. C'est devenu une passion, c'est devenu un besoin et pas un désir. Et c'est une consommation qui entraîne des dommages et que l'on continue malgré les dommages. Donc, ceci, parce qu'on va sûrement discuter de la valeur sociale du mot addiction, quel intérêt ça a eu de ramener ça à la fin des années 90. On peut reprendre un peu d'histoire, c'était même avant, mais c'est rentré dans le langage général et politique au début des années 2000. Et maintenant, on est addict aux séries télé, vous disiez, au chocolat. Alors, on est addict pour les médecins lorsqu'il y a un dommage, une souffrance derrière, soit pour soi-même, soit pour ses proches, et qu'il faut, pour nous, essayer de diminuer cette souffrance.
Alors Patrick Farreau, j'aimerais savoir, et Roland Gory, je vous poserai la même question, si cette définition vous paraît suffisamment précise pour embrasser l'ensemble des addictions, ou bien si peut-être elle est justement un peu trop large et qu'elle permet d'y glisser certaines pratiques, certains comportements que vous ne rangeriez pas dans le domaine des addictions. Patrick Farreau.
Oui, alors Il existe plusieurs définitions d'addiction suivant les organismes, hein, suivant par exemple l'OMS, effectivement, perte de contrôle, omnibilisation et conséquences négatives. NAIDE, qui est le grand institut d'études sur les drogues et les addictions, c'est une maladie chronique avec un recherche et usage compulsif ou difficile à contrôler malgré les conséquences négatives. Et puis DSM-5, c'est le diagnostic, le manuel diagnostic des maladies mentales fait par l'Association américaine de psychiatrie, qui alors elle a une 13 critères, et puis quand on en a satisfait un certain nombre, eh bien on est addict, on souffre de troubles addictifs. Et en particulier, ce qui est central dans la définition du DSM-5, c'est le craving, c'est-à-dire le désir intense. Alors, ce qu'il faut savoir, puisque l'OMS vient de reconnaître les jeux vidéo comme une addiction, c'est que lorsqu'on a fabriqué ce diagnostic, il n'y a pas très longtemps, il y a eu énormément de discussions pour savoir ce qu'on allait inclure, bon, sur le terme lui-même, mais ce qu'on allait aussi inclure dans la définition de troubles addictifs. Et de fait, on a discuté des jeux vidéo, on les a mis sur le strapontin, on les a pas inclus. Hein. La seule addiction, il parle en termes de addictive disorder, sans produit qu'on a inclus, c'est le gambling, c'est-à-dire c'est le jeu pathologique, hein, le jeu d'argent, le jeu au casino. Bon voilà, ça c'est les définitions. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'on est addict à de plus en plus de choses ? Moi, je pense effectivement qu'on est sûrement dépendant de plus en plus dépendant à de plus en plus de choses. C'est-à-dire, bon, on pourrait dire le marché, le travail, la sécurité aux écrans. Et c'est quelque chose qui est assez profondément ressenti, en fait, quand on travaille. En fait, moi, j'essaye de travailler, disons, sur une sorte de conscience diffuse que je trouve, bon, en particulier au cinéma, de conscience critique, c'est-à-dire une sorte de malaise moral par rapport aux gens, au type de société dans laquelle on vit. Eh bien, effectivement, il y a cette idée de dépendance. Maintenant, est-ce qu'on est addict à toutes ces choses?
Eh ben, justement l'objet de cette discussion. Si vous voulez bien, voilà, Patrick Farrow, juste pour que la discussion et que la parole puisse bien circuler, voilà, si les uns et les autres, vous pouvez faire des interventions qui ne soient pas trop trop longues pour que chacun puisse réagir à ce que dit les autres. Roland Gori, je reste encore un instant sur cette question de la définition, parce que la question de la définition, elle est évidemment très très importante. Elle permet justement de savoir ce que l'on va mettre sous cette appellation d'addiction. Or, on a l'impression qu'on y met de plus en plus de choses aujourd'hui.
Alors, écoutez, je dirais deux choses. La première, c'est que ce terme d'addiction, il vient un petit peu remplacer le terme qui était classique de toxicomanie, ou de passion pour les toxiques, pour aller très très vite. Alors c'est un mot, comme vous savez, c'est un anglicisme, mais qui est d'origine latine, et je trouve que c'est intéressant de se reporter à son origine, parce que était addictus celui qui, ne pouvant pas payer ses dettes, devenait une monnaie vivante pour son créancier. Il devait travailler pour lui, il lui appartenait d'une certaine manière. Donc si vous voulez, pour moi, c'est moins en termes de comportement, c'est moins en termes d'objet, de tel type d'objet ou autre, c'est en termes de perte de liberté, c'est-à-dire de devenir esclave d'une certaine manière d'un produit pour survivre. Ça, psychologiquement, c'est un point qui me paraît très important.
Alors, on pourrait lui préférer le terme de dépendance, Roland Gori. Est-ce que ça ne serait pas mieux ? Est-ce que ça ne donnerait pas davantage, peut-être, de gravité à ses consommations ou à ses comportements ? Parce que finalement, quand on dit qu'on est addict, je ne sais pas, moi, si je dis que je suis addict actuellement, par exemple, à la Coupe du Monde de football, c'est pas la même chose que de dire que je suis dépendant.
Oui, alors on peut prendre ce terme de dépendance, mais si vous voulez, c'était le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'à mon avis, les diagnostics psychiatriques sont aussi le reflet d'une culture et d'une société. Et donc, quand même, d'une certaine manière, on peut s'étonner que dans une société où règne le fétichisme de la marchandise, ou le fétichisme de la performance, finalement, on mette en avant un symptôme, justement, de dépendance, ou un symptôme, si vous voulez, d'aliénation, de perte de liberté. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les symptômes nous ressemblent. Donc, c'est pas par hasard. Alors, vous évoquiez, par exemple, le jeu vidéo. On peut prendre juste cet exemple. Et puis après, je laisserai bien sûr les autres intervenir. Mais on voit bien comment l'aliénation, la perte de liberté par rapport, si vous voulez, aux écrans ou par rapport aux jeux vidéo est majeure. Il existe au Japon des pathologies, des symptômes qui s'appellent l'otakisme ou l'ikikomori, où vous avez des jeunes adolescents ou de jeunes hommes qui ne sortent plus de leur écran, qui ne sortent plus de leur quartier numérique. C'est pas qu'ils sortent plus de leur chambre. C'est pas qu'ils ne sortent plus, si vous voulez, de leur famille. Ils ne sortent plus de leur écran, ils ne sortent plus de leur manga ou de leur jeu vidéo. Là, vous avez une pathologie qui, quand même, ressemble beaucoup à l'individualisme de masse qui est promu par notre société.
Michel Reynaud.
Alors, la dépendance, c'était le terme un peu plus ancien comme la toxicomanie. La dépendance, c'est un peu fermé, c'est-à-dire qu'on est dépendant ou on l'est pas. L'addiction est beaucoup plus dimensionnelle, progressive, et permet d'intégrer les formes de début, les formes moins graves, les passages d'une forme à une autre. Donc, ça avait cet avantage-là. Alors, comme le dit fort justement Roland Gori, la terminologie dépend d'une période de la connaissance donnée. Le choix de parler d'addiction en France s'est fait à la fin des années 90. C'était déjà repris par les psychanalystes, en particulier pour les addictions sexuelles avant, mais globalement, on l'a utilisé pour parler des dépendances avec un choix politique qui était clair. Il fallait diaboliser la consommation d'alcool comme il y avait celle des drogues, parce qu'il y avait en France l'énorme problème de l'alcool et qu'une des façons de faire percevoir, c'était de rentrer dans les toxicomanie, puisqu'à l'époque c'était la mission de lutte contre les drogues et toxicomanie, l'alcool et le tabac. Donc ça a été un choix, mais on sait bien que et on s'est appuyé sur des données biologiques qui étaient l'augmentation de la dopamine dans le nucléus accumbens, c'est-à-dire toutes les drogues augmentent dans un petit noyau du cerveau, noyau du plaisir, la dopamine. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. On s'est rendu compte que tous les comportements de plaisir augmentaient la dopamine. Beaucoup moins, mais c'est les mêmes mécanismes. Et donc, ça a été un choix stratégique et politique. Et c'est aussi une façon de définir des pathologies et des souffrances que les gens peuvent venir soigner. Et alors, les classifications dans leurs limites en psychiatrie, c'est pour avoir des populations homogènes et pour pouvoir voir si dans ces populations homogènes, les traitements que l'on donne sont efficaces.
Alors, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Michel Reynaud, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des choix médicaux, mais ce sont aussi des choix politiques. Que de dire ce que l'on entend et ce que l'on met dans la catégorie des addictions, ce sont toujours des choix politiques, Patrick Farrow ?
Ça, j'en sais rien. Si vous voulez, je voulais intervenir sur dépendance, addiction. Je crois que le critère, effectivement, c'est la souffrance. Si vous êtes dépendant, par exemple, des matchs de football, ou du séjour à la campagne, ou de la lecture, ou de quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, etc., et que vous n'êtes pas malheureux, qu'en plus que vous vous ennuyez pas, vous enquiquinez pas les autres, on peut pas dire que vous êtes addict. Si vous voulez, dans l'idée d'addiction, il y a l'idée qu'on est mal. Et c'est pour ça qu'on va voir un psychiatre. Bon, avec les drogues, bien entendu. Enfin, avec les drogues, quand on arrive à un certain niveau de consommation, avec les médicaments vendus sur prescription. Et puis aujourd'hui, c'est un fait qu'on va voir les psychiatres pour plein de choses. On va les voir pour les écrans, on va les voir pour les achats compulsifs, on va les voir pour les jeux, on va les voir pour les sports. Voilà. Et c'est pourquoi on va les voir. Pas parce qu'on est content de courir, par exemple, de faire quelques kilomètres chaque semaine, mais parce qu'on en souffre, ou on en fait souffrir les autres. Ou par exemple, il y a le workaholisme, on appelle ça l'addiction au travail. Eh bien, on pourrit sa vie, on pourrit celle des autres. Voilà. Donc, il faut vraiment pas perdre de vue cet élément-là. Et si on peut parler de société addictive ou de capitalisme addictif, c'est parce qu'il y a une souffrance diffuse qui s'exprime par rapport à plein d'évolutions actuelles de la société. Voilà, j'en reste là, je pourrais développer après.
Eh bien, vous allez développer après. C'est promis, Roland Gori.
Si vous voulez, si vous êtes addict, par exemple, au score d'évaluation, ça posera pas de problème. Si vous êtes addict, si vous voulez, à la rentabilité financière de vos actions, ça posera pas de problème. Si vous êtes addict à la performance dans votre travail ou dans une dimension sportive ou académique, ça posera pas de problème. Donc, si vous voulez, il y a toujours ce risque majeur, et Lacan, en 1967, je suis désolé de citer Lacan, mais enfin, parler de qualification policière à propos des toxicomanies. Et je crois qu'il reste un peu ce spectre-là qui vient hanter les diagnostics psychiatriques lorsqu'ils sont portés comme ça, sans tenir compte de la niche écologique de notre culture et de notre société. Ça me paraît effectivement majeur.
Mais est-ce que ça n'est pas le cas justement, par exemple, aujourd'hui à Roland Gori, avec cette, je reprends là aussi un terme qu'a utilisé tout à l'heure Michel Reynaud, la diabolisation de certaines consommations, de certaines pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe avec le jeu vidéo, est-ce que ça ne traduit pas aussi une forme de diabolisation d'une pratique de la part de sociétés adultes qui peuvent être peut-être un peu prises de panique par rapport au mode de consommation des jeunes, des adolescents, en disant, bah voilà, cette pratique-là, elle est problématique et à haute dose, on va en parler d'addiction. Je sais pas moi, des jeunes qui liraient énormément, qui passeraient leur nuit sans dormir parce qu'ils aimeraient la lecture, on imagine mal les voir se retrouver dans la catégorie des personnes addictes. Roland Gori.
Si vous voulez, je crois qu'il y a deux points là. Vous avez raison, hein, c'est un point très important. Le premier point, il faut voir, ça a été évoqué tout à l'heure par Patrick Farrow concernant, je crois, concernant le DSM, c'est le manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux. La cinquième version qui est sortie en mai 2013 parle de troubles de l'usage. C'est-à-dire qu'on peut entrer de plus en plus facilement dans la pathologie à partir du moment où on parle de troubles de l'usage, parce que c'est quand même, avouez-le, un petit peu vaseux comme définition. Soyons un peu durs par rapport au DSM. Et si vous voulez, le deuxième point, c'est lorsque ça pose un problème à la société. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure, ça me paraît un point très important par rapport à ces jeux vidéo, l'otakisme ou l'hikikomori, c'est-à-dire ces symptômes, si vous voulez, on va dire, d'autarcie sociale dans laquelle les jeunes adolescents ou les jeunes adultes s'enferment. Mais on ne tient pas compte que c'est arrivé à un moment donné au Japon, par exemple. C'est arrivé à un moment donné dans une crise sociale, dans une crise économique, dans une crise culturelle. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut tenir compte des conditions sociales et culturelles au sein desquelles émerge un symptôme et la manière dont il est diagnostiqué. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas, hein, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que les souffrances des gens viennent s'exprimer dans les enveloppes formelles d'une culture et d'une société donnée qui pose un diagnostic qui lui convient. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, on va de plus en plus médicaliser l'existence, médicaliser les comportements, et donc considérer que quelque chose qui est d'ordre d'une anomalie est pathologique, et c'est pas du tout la même chose. Et d'autre part, la manière dont on va capturer, si vous voulez, ces anomalies et poser un diagnostic a quand même un rapport avec les valeurs d'une culture et d'une société.
La façon dont on va décider ce qui est de l'ordre de l'addiction ou pas, est-ce que ça traduit, dans certains cas, une surmédicalisation de l'existence, comme le dit Roland Gori, Michel Reynaud?
Alors, d'abord, l'addiction est un grand symptôme du 21e siècle ou de la fin du 20e et de notre culture. Les psychiatres et les psychopathologues parlaient auparavant des névroses qui correspondaient à une période où les cultures étaient très contraignantes. Maintenant, on est dans une culture de l'individualisme, de la recherche de plaisir. Certains parlent de culture addictogène, c'est-à-dire qu'on vous soumet à des tentations permanentes, à l'idée que vous pouvez tout avoir et à le besoin de tout essayer. Donc, ça accroche un certain nombre de gens. Pour comprendre quelque chose au côté un peu complexe de l'addiction, il faut reprendre une vieille notion clinique qu'avait parmi les premières amené Claude Olivenstein. L'addiction, c'est un produit qui est plus ou moins addictif, une culture qui est plus ou moins, un environnement qui est plus ou moins incitatif et un individu qui est plus ou moins vulnérable. Et donc à partir de là, c'est ce que nous offre la culture auquel on s'accroche. Avant c'était le pinard, maintenant on a vu arriver des drogues, on voit arriver des nouvelles drogues qui sont extrêmement puissantes sur le plan du désir et du plaisir sexuel, on voit arriver des jeux d'argent ou des jeux vidéo que les fabricants savent parfaitement comment il faut rendre addictif. Si vous voulez on en parlera, mais on sait comment rendre une relation addictive et on sait comment rendre un produit addictif. Et c'est pour ça que la lecture, ça vous récompense très lentement, ça n'est pas brutal, vous êtes certain d'avoir votre bouquin, donc peut-être que vous pouvez fuir un peu de réalité dans votre livre, mais on ne parle pas d'addiction comme on va pouvoir le dire avec des jeux d'argent, de la cocaïne ou des nouvelles drogues sexuelles.
Mais ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de dimension morale dans le fait de pointer certains comportements ou certaines consommations comme étant addictives ?
Alors d'abord, quand on est addictologue, la première des choses qu'on fait, c'est surtout de ne pas moraliser et culpabiliser des gens qui ne sont plus maîtres de ce qu'au début ils ont fait dans un choix volontaire, à un moment, petit à petit, et c'est ça qui est très compliqué à comprendre, un choix qui était volontaire devient une contrainte. Et donc tout notre travail est d'abord de déculpabiliser, de montrer qu'ils n'en sont plus responsables, que la société, l'environnement a une certaine part et qu'ils ont une certaine vulnérabilité, et de trouver avec eux d'autres manières de vivre et de prendre du plaisir qui leur permettent d'abandonner celui qui est devenu tout puissant. Donc loin de nous l'idée de culpabiliser le consommateur. Après que les sociétés, notre société incite massivement à consommer, aussi bien dans un capitalisme débridé que dans un désir de plaisir individuel aux dépens de l'échange communautaire et de la puissance et de la valeur du groupe qui soutient, c'est indéniable. C'est pour ça qu'on peut parler de culture addictogène et que les plus vulnérables, tout à l'heure on disait pendant les informations, oui, c'est un marqueur social, c'est souvent les plus pauvres qui sont les plus addicts, y compris très tôt. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte, ça n'est pas que médicale, parce qu'après on peut parler de médicalisation, de recherche de médicaments, de Big Pharma est derrière en essayant de traiter des symptômes de plus en plus larges. C'est pour ça que Roland Gori parlait de définition un peu limitée, un peu trop grossière. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas oublier qu'il y a de la souffrance. C'est la seule façon de se protéger, et que quand quelqu'un vient et nous demande d'être soulagé d'une souffrance, là il y a une légitimité.
En tout cas, vous dites ça n'est pas que médical, c'est aussi, alors tout à l'heure je vous ai lancé sur l'aspect politique, Patrick Farrow, peut-être aurais-je dû dire davantage social. En tout cas, je voulais vous amener aussi sur ce terrain du capitalisme addictif que vous évoquez, livre dans lequel vous vous expliquez notamment qu'il ne s'agit pas simplement de comportements individuels isolés qui pourraient être traités comme tels, mais que c'est aussi la société capitaliste qui incite à consommer toujours plus avec un certain nombre de méthodes et d'outils qui permettent, c'est un petit peu comme quand on mange par exemple des chips, quand on en mange une, on a toujours envie d'en manger une derrière, une société qui serait un petit peu organisée de cette manière pour justement, alimenter ces addictions.
Oui, alors moi je voulais, vous me posez la question, mais je voulais effectivement embrayer sur ce qui vient d'être dit immédiatement. Bon, ce qui justifie l'idée de société ou de capitalisme addictogène ou addictif, c'est précisément l'hyper-rationalisation de la stimulation du désir. C'est-à-dire qu'on fait des études là-dessus, il y a des spécialistes dans les firmes et dans le management aussi qui étudient le désir et sur la façon de le mobiliser à des fins industrielles, marchandes, etc. C'est parce que ça se manifeste du côté de la consommation, nouveauté, jouissance, du travail, succès et performance, mais aussi de la sécurité, surveillance ou de la politique, le lobbying et la démagogie, par exemple. Si vous permettez, je voulais aussi réagir sur d'autres choses qui ont été dites, par exemple sur l'addiction à la rentabilité financière. Bien sûr, si on a quelques actions et qu'on les suit régulièrement, est-ce que c'est une addiction? C'est une façon de faire un peu d'argent, pourquoi pas. Mais l'addiction à la rentabilité financière, elle peut poser des problèmes. Alors, elle peut poser des problèmes personnels. Il y a un cas célèbre, c'est le cas de Jérôme Kerviel qui, après avoir été adoubé par sa banque pour faire le maximum de gains, manque de chance. À un moment, il avait pris trop de risques sur les marchés et donc on lui a tapé sévèrement sur les doigts. Mais il y a aussi, moi, c'est ce que j'appelle en économie, un terme, c'est les externalités négatives. Alors, si vous voyez toute une série de films, justement, sur, on peut dire, l'addiction au fric, hein, l'addiction à la rentabilité financière, des films comme par exemple Margin Call, qui est vraiment mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous voyez aussi Inside the Job sur la crise des subprimes, voyez bien que la plupart des gens à la fin de ces films, ils sont de très bonne humeur puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais il y en a d'autres qui ne sont pas de bonne humeur. Donc il y a bien de la souffrance, mais c'est pas chez eux. On pourrait dire à peu près la même chose pour le lobbying, qui est une activité qui prend la tête. Quand on fait du lobbying, on fait que ça. On est constamment à chercher le député, etc., à chercher la commission ad hoc, on pense qu'à ça. D'ailleurs, dans le travail en général, moi aussi d'une certaine façon, mais je n'en souffre pas et j'essaye de ne pas en faire souffrir les autres, on cherche à réaliser ses fins. Et ça a des effets. Le lobbying, par exemple, c'est le lobbying acharné des firmes qui a conduit à la crise des antidouleurs aux États-Unis, en particulier l'oxycontin, qui est une vieille substance, mais qui a été d'abord massivement prescrite aux États-Unis avec l'appui des autorités médicales américaines, qui a donné lieu à des dizaines de milliers de surdoses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui meurent de surdoses aux États-Unis, c'est pas les noirs et les minorités, c'est les gens des classes blanches aisées, qui prennent trop d'antidouleurs. Alors, à un moment, ils s'en sont aperçus, ils ont arrêté les prescriptions, mais depuis, il y a eu un marché parallèle qui s'est développé. Alors, vous voyez que tout ça, c'est pas anodin. Si vous voulez, il y a bien des pratiques qui visent à élargir les marchés et à susciter le désir.
Roland Gori, effectivement, il y a à la fois donc ces incitations à consommer, à surconsommer, qui peuvent du coup être assimilés par la suite à des addictions, mais il y a aussi peut-être alors des modèles de société qui font que, je sais pas moi, si au travail on va être se sentir sous pression, on va peut-être être tenté d'aller chercher dans des consommations qui au départ soulagent, parce que faut quand même le rappeler aussi, si on en arrive à être addict à certains produits ou à certains comportements, c'est bien parce qu'au départ ça donne du plaisir, ça apporte une forme de soulagement.
Oui, mais je crois justement que nous sommes, si vous voulez, dans une société qui pratique un peu l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une incitation à l'hédonisme, une incitation, si vous voulez, à la performance, etc., en même temps, il y a une pathologisation des comportements. Et nous sommes dans une société de normalisation, si vous voulez, des comportements. Alors, pour être très, très, très précis et très concret, en gros, on peut faire une analogie. La drogue, c'est un peu comme la passion amoureuse. C'est, vous avez un truc en tête qui sature votre esprit, qui sature votre horizon vital, existentiel, et vous pouvez pas vous en détacher. Il y a une perte de liberté. La véritable souffrance dont parlait Michel Reynaud justement tout à l'heure, à mon avis, c'est cette perte de liberté. Et c'est très important dans une société où justement on confond liberté et indépendance ou autonomie. C'est-à-dire que, si vous voulez, on vous incite à être indépendant, on vous incite à être autonome, c'est-à-dire qu'on a perdu de vue ce qui fonde la démocratie et qui est que la liberté requiert la présence d'autrui, c'est-à-dire la reconnaissance symbolique, la reconnaissance par l'autre. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, on est dans une société, Durkheim parlait de société suicidogène qui poussait au suicide, on est effectivement, je suis d'accord avec mes collègues, on est dans une société qui pousse aux addictions dans la mesure où les produits quels qu'ils soient, que ce soit des toxiques, des écrans, etc., nous permettent de nous passer de l'autre parce que nous sommes dans des sociétés extrêmement individualistes qui en même temps mettent la pression pour que nous puissions obtenir le maximum de plaisir, le maximum de jouissance, d'hédonisme. Et l'hédonisme de masse est aussi un processus de dépolitisation, ce qui, à mon avis, est extrêmement important.
Oui, mais comment vous faites Roland Gori, quand vous êtes face à un individu qui est soumis à une addiction, pour lui faire comprendre que cette addiction réduit sa liberté? Alors que j'imagine qu'il va vous dire, bah voilà, si vous voulez par exemple que je joue, si vous m'imposez de moins jouer aux jeux vidéo, par exemple aux jeux d'argent, il va le prendre au contraire justement comme une restriction de sa liberté. C'est-à-dire quand on est addict, est-ce qu'on n'a pas l'impression justement qu'on fait un usage absolu de sa liberté?
Alors justement, si vous voulez, avec Grandette, c'est une très bonne question parce que elle pose aussi les difficultés. Ça, Michel Reynaud le sait très bien, les difficultés de la prise en charge des patients addicts. Si un patient addict vient me voir, c'est qu'il éprouve une souffrance. Donc, si vous voulez, il y a déjà une démarche qui fait qu'il est conscient, ou en tout cas, il est demandeur de plus de liberté. La difficulté avec, justement, des patients addicts, c'est qu'ils se risquent, qu'ils ont du mal à se risquer à la relation humaine parce que le produit les protège de la relation humaine. Si vous voulez, quand on parlait de toxicomanie avant, bon, on peut très bien contester le diagnostic, maintenant je veux bien, mais j'y crois pas trop, mais c'est un problème. Mais si vous voulez, c'était une façon de dire que dans toxicomanie, il y avait maniaque, c'est-à-dire il y avait une défense contre la dépression, une défense contre la tristesse, une défense contre l'effondrement. C'est ce qui me paraissait c'est intéressant d'ailleurs dans ce mot de toxicomanie. Et la grande difficulté des psys qui prennent en charge des toxicomanes, c'est qu'ils savent très bien que ce sont des patients qui ont du mal à se détacher du produit ou de l'objet pour se risquer à la relation humaine. Et ça, je crois qu'il y a une double détermination, à la fois psychologique, c'est ce que je viens d'essayer de dire, c'est-à-dire que se risquer à la relation à l'autre, bah, si vous voulez, l'autre, ça vous altère d'une certaine manière, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça vient, si vous voulez, ça mobiliser de l'angoisse, du risque. Et avec le produit, on l'a sous la main, le produit, il ne désire pas. Et il est bien vendu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure d'ailleurs par Patrick Farrow, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un lobbying important pour que nous devenions dépendants des produits, dépendants des objets, et avec de moins en moins de relations humaines, ce qu'on trouve justement dans les connexions numériques, par exemple, par rapport aux relations, si vous voulez, sociales et humaines.
Alors Michel Reynaud, quel peut être justement le travail de conviction qui peut être fait par, alors je rappelle, là, vous êtes psychiatre et addictologue, auprès d'individus qui sont addicts, qui font la démarche, c'est donc qu'ils souffrent, nous dit Roland Gori, mais il ne suffit pas peut-être d'avoir conscience de sa souffrance pour être prêt à abandonner l'objet de son addiction.
Absolument. Il faut avoir en tête qu'on n'est pas égaux devant l'addiction. On essaye tous des produits et des comportements et il y en a certains qui nous plaisent plus que d'autres et donc auxquels on donne une valeur qui nous donnera envie d'y revenir. Et puis si on est vulnérable, en partie pour des facteurs génétiques. Et là, c'est ceux qui vont chercher des sensations, chercher des émotions fortes, vivre des trucs très forts. Et ça fait une partie des grands fêtards et des grands artistes qui passent par des sensations fortes. Et puis, il y a tous ceux de l'autre côté qui ont une souffrance à calmer. Cette souffrance, elle vient en général de l'histoire personnelle. Et le produit est ce que l'on découvre qui fait que l'on se sent mieux. C'est-à-dire qu'on va en soirée et on se rend compte que lorsqu'on a pris un peu d'alcool, et ben, on est beaucoup plus à l'aise. On est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus séduisant, beaucoup plus, on a beaucoup plus... Toutes les drogues sont des empathogènes. Elles facilitent le contact avec autrui et elles font qu'on est plus près d'autrui. L'addiction, c'est une maladie de la relation et une maladie de la gestion des émotions et du plaisir. C'est des circuits extrêmement simples. On est plus ou moins solide dans ces circuits parce qu'on a tous des niveaux de recherche. On parlait du travail. On peut prendre beaucoup de plaisir au travail, mais on a un espèce de niveau, de zone de confort. Et quand on est au-delà, on risque, et c'est pas le même niveau pour chacun, on risque de basculer dans le workaholisme ou le burn-out.
S'agissant des réseaux sociaux et des jeux vidéo, ce sont les mêmes...
C'est les mêmes, c'est-à-dire que ce que pourraient dire des psychiatres malveillants, c'est que parler d'addiction aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, c'est en réalité la traduction d'une pathologie psychique sous-jacente, ce qui est en général vrai, ou d'une pathologie relationnelle. C'est-à-dire, ce sont des ados qui sont en difficulté dans leur relation familiale, dans leur relation avec autrui. Et donc, quand Roland Gori parlait d'Ikimori, c'est beaucoup plus facile de se créer un monde virtuel très excitant, parce qu'on appartient à ce moment-là à une ligue, on est récompensé par cette ligue, on a des tas d'avantages sans vivre ce qui est difficile, ce qui est la plus grande récompense et la plus grande souffrance de l'être humain, qui est la relation. La relation autrui et plus encore la relation amoureuse.
Je suis sur les réseaux sociaux, moi je vais avoir l'impression que j'ai des relations avec
vous
les autres.
Vous aurez l'impression que vous avez des relations avec autrui, mais vous serez en dehors de la vraie vie. Vous ne serez pas dans le real life. Si vous êtes dans la vraie vie, vous aurez des relations virtuelles, mais vous sortirez aussi avec eux, vous irez faire du sport, vous irez voir votre vieille mère, vous irez travailler. Donc vous aurez une multitude de plaisirs variés selon les moments. Quand on devient obnubilé par un seul plaisir, il faut s'interroger. Et quand on se met à perdre des capacités d'adaptation qu'on se met à souffrir ou qu'on fait souffrir les autres, là, on rentre dans un besoin d'aide. Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est progressif et c'est difficile de se rendre compte que l'on devient addict. C'est pas un interrupteur et puis jusque-là, je buvais normalement ou je consommais du cannabis normalement et maintenant je suis addict. Non, c'est pendant des années que les circuits évoluent, se travaillent, les circuits cérébraux, et on perd. Et longtemps, on se dit non, je contrôle, je m'arrête quand je veux, je le fais pas pendant les vacances, tout le monde fait comme moi. Et donc, c'est très facile, là, de se cacher à soi-même. Et c'est en général quand on a rencontré le mur brutalement ou le fond de la piscine qu'on se dit, ben là, il faut peut-être que j'aille demander de l'aide. Et donc, quand on vient nous voir, c'est que les gens ont compris qu'ils avaient un problème. C'est toute la phase avant qui est si difficile et qui est si difficile pour la famille ou les conjoints qui voient bien qu'il n'est plus maître, qui maîtrise mal. Mais lui, il peut toujours dire, mais non, je fais ce que je veux, vous n'avez pas le droit de m'interdire, d'ailleurs je m'arrête si je veux et mes copains font comme moi.
Alors c'est compliqué de se rendre compte qu'on est dans l'addiction d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, Patrick Faro, le fait de se rendre compte qu'on est peut-être aujourd'hui dans une société de l'addiction. J'ai l'impression que on le sait aujourd'hui, par exemple sur la surconsommation, c'est-à-dire ce sont des thèmes, la défense de l'environnement qui sont extrêmement répandus, on sait qu'on consomme trop et pourtant on continue quand même de consommer énormément. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction-là d'un point de vue là beaucoup plus collectif ?
Oui. Si vous voulez, s'il y a un problème de conscience morale dans la société aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on a l'impression d'être les agents à la fois bénéficiaires et coupables d'une forme de vie, je dis pas d'un système parce que c'est compliqué, mais d'une forme de vie dont on est constamment les témoins de ses conséquences calamiteuses. Alors, le cas le plus clair, c'est celui de l'environnement et de l'écologie, hein, où on est face au problème de l'environnement exactement comme un drogué ou un parent qui fait à son enfant qui a un problème la description de l'état catastrophique dans lequel il risque de tomber ou du sujet lui-même. Mais ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il va falloir autre chose. Il va falloir changer l'ordre de son désir. Voilà. Donc, il y a ce sentiment très général. Et moi, je l'ai trouvé, effectivement, en travaillant sur le cinéma, qui est une fenêtre un peu sur la société, parce que s'exprime dans le cinéma, alors de façon exagérée aussi, de la part de réalisateurs d'Hollywood, et d'ailleurs, qui sont souvent très, très confortablement installés dans la société, etc., mais toute une critique diffuse. Ils rendent compte de quelque chose qui existe. Hein, quand vous allez, par exemple, le travail, prenons l'exemple du travail, il y a les films sur le travail, les films de genre sur le travail, mais le travail apparaît dans toutes sortes de films, et c'est toujours la même chose. C'est toujours cette pression constante. Et c'est pas comme c'était avant. Je vous dis une chose, si vous permettez encore, sur l'évolution du capitalisme. Le capitalisme a toujours cherché à faire de la rentabilité, etc. Mais il y a eu effectivement, au milieu du XXe siècle, dans la rationalisation capitaliste, quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle le Fordisme. C'est-à-dire l'extension des marchés aux travailleurs qui pouvaient désirer autre chose que simplement reproduire leur force de travail. Et il s'est passé effectivement quelque chose à partir de ce moment-là, dans la consommation, dans le management, etc. Et bon, j'ajoute juste un mot, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite dans la stigmatisation des drogués. Alors les drogués, qui c'est ceux qui prennent des drogues illégales. Hein. Ceux qui prennent des drogues, qui prennent des drogues licites, l'alcool ou le tabac, qui tue énormément, ils peuvent être stigmatisés aussi, mais pas de la même façon. Et alors, il y a cette hypocrisie qui est terrible dans un contexte, justement, d'une société qui ne cesse de faire appel à la jouissance, qui a consommé, à la performance, etc. Et donc, ça pose, évidemment, vous parliez de politique tout à l'heure. Moi, je sais pas si parler d'addiction ou pas d'addiction, c'est une question de choix politique. Mais des choix politique, il y aurait à en faire sur certaines questions. Sur certaines questions, comme par exemple la libre disposition de son corps, un peu, si on parle d'émancipation, et en particulier par rapport aux substances addictives, aux substances psychoactives, ou par rapport à autre chose, par rapport aussi à sa propre souffrance et à la façon dont on va éventuellement la gérer. Voilà.
Roland Gori, pardonnez-moi, comment est-ce qu'une société peut lutter contre les addictions? Est-ce qu'il faut prendre chaque cas individuel et séparément? Ou bien est-ce qu'il faudrait, je sais pas, imaginer peut-être des actions plus larges, plus collectives?
Si vous voulez, on va pas choisir entre fromage ou le dessert. Je pense qu'on peut avoir des actions, bien sûr, individuelles. C'est ce que nous faisons, nous les psys, hein, Michel Renaud, moi, et bien d'autres. Et puis, où il s'agit de restituer une part de liberté. J'insiste beaucoup sur ce mot, parce que si vous voulez, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure aussi, il va de soi que l'addict, c'est un consommateur trop fidélisé. Et donc c'est bien lié aussi à une société de la marchandise du spectacle. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'addiction donne l'illusion d'une indépendance par rapport à la réalité extérieure, par rapport au monde extérieur, par rapport au monde social. Et je pense qu'une société qui favoriserait davantage, si vous voulez, les relations sociales, davantage le partage sensible de l'expérience, est une société qui prendrait en compte cette dimension d'une addiction généralisée.
Supposerait donc du coup de changer de modèle de société. Alors là, c'est évidemment un travail au long cours. De manière plus concrète, Michel Renaud, il y a un plan national de mobilisation contre les addictions qui est attendu dans les prochaines semaines, nous dit-on. Qu'est-ce que vous en attendez, vous?
Qui est attendu depuis des semaines, puisqu'à partir du moment où on les a beaucoup embêtés en disant que dans le vin, il y avait de l'alcool et que l'alcool c'était dangereux, ça a beaucoup mis en difficulté les rédacteurs de ce plan. Ça repose la question, oui, en individuel on soigne, on essaye de développer les dispositifs de soins au mieux et en écoutant toutes les souffrances. Sur le plan social, il faut diminuer l'accessibilité aux produits, informer sur la dangerosité, et l'alcool est un produit dangereux, c'est un produit agréable, c'est sûrement un des plus subtils, un des plus agréables, mais c'est aussi un des plus dangereux. Donc il faut avoir une vision clair du niveau de dangerosité, que les gens informés soient protégés, en particulier les plus vulnérables. Je rappelle que le marketing, la publicité sont une fantastique façon de faire acheter. On sait comment on fait consommer, hein, tout à l'heure, c'est avoir quelque chose, ne pas l'avoir exactement quand on le veut, et se dire je vais peut-être pouvoir l'avoir. Et ça marche dans les relations amoureuses, mais ça marche aussi dans chacun des produits. Donc on peut jouer là-dessus.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Michel Reynaud, Roland Gori et Patrick Farreau. Les références des études, des ouvrages des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulcer et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson.